Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Ah, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà. Quand je suis un peu triste ou de mauvaise humeur, puis que je veux me remonter le moral, j'ai juste à entendre ou à lire ou à regarder une niaiserie des woke. Puis ça tombe même, tous les jours, il y en a. Et je me dis, il n'y a rien de plus drôle que l'absurdité du wokistan. Fait que là, on a un bon exemple. Ce matin, j'ouvre mon devoir. Ben oui, ça m'arrive de lire le devoir. Là, j'ouvre le devoir. Je vais dans la section culturelle, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, et là je tombe sur un texte dont le titre est quand même assez intriguant. Pourquoi les personnages de télévision d'ici roulent-ils tant en VUS? Et là on apprend que le Conseil québécois des événements éco-responsables, CQEER, un organisme sérieux là, les gens du CQEER, ont fait une étude pour se rendre compte qu'à la télévision québécoise, il y a bien trop de monde qui conduisent des VUS, voyons donc. Puis il y a bien trop de monde qui, en plus, sont tout seuls dans leur auto. Comment ça fait que ça ne fait pas du covoiturage, ce monde-là, à la télévision québécoise? C'est dangereux, ça donne un mauvais exemple à nos jeunes. Puis savez-vous quoi? Il y a même des émissions de télé québécoises où on voit des personnages qui mangent du steak, mesdames et messieurs, au lieu de manger des repas végé. Puis quand... c'est ça, c'est dans l'étude, je vous jure. Je n'invente rien. Ils ont analysé des émissions populaires comme District 31, Toute la vie, Cinquième rang, L'œil du cyclone, Le bonheur, pour avec leur petite loupe, là, leur petite loupe de petits curés de la pensée. Là. Ils ont découvert, par exemple, avec des chiffres à l'appui, attendez, il faut que je trouve les pourcentages, que quand on voit, ce qui est assez rare, des gens qui, à la télévision, font un tri dans leur poubelle, ben, les contenants à usage unique sont jetés à la poubelle dans 80 % des cas. Mais non, mais c'est pas ça, il faut pas les jeter à la poubelle. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, dans le CQEER, qui a permis avec sa petite loupe, qui a dit « Ah non, 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 dans le district 31, le policier, là, il a pris sa petite tasse, puis il l'a pas mis au recyclage, c'est pas bien. » Vous en avez pas marre de ces curés-là qui nous disent qu'il faut manger du tofu au lieu de manger de la viande à la télé? Mais foutez-nous la paix! On commence l'émission.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Je ne sais pas s'il mange du steak ou du tofu, mais Rémi Villemur, en tout cas, est étudiant au doctorat en sociologie et il arrive toujours avec un petit point de vue sociologique sur la vie en société. Et là, ce sont les relations humaines. Peut-on aller jusqu'à dire les relations hommes-femmes ou ces deux termes-là sont complètement démodés en 2024?
Oui, on appelle ça l'hétéronormativité, si on s'en tient aux hommes et aux femmes. Enfin, si on s'en tient à l'hétérosexualité.
Méchante, Sophie.
Donc, non, on peut plus dire ça si on cherche à être doux avec tout le monde et si on ne veut pas affecter l'épiderme de plus en plus sensible de plus en plus de gens autour de nous. Non, mais en fin de semaine, j'ai vu passer deux textes qui, selon toute apparence, avaient rien en commun et qu'à la lecture, j'ai fini par remettre un petit peu ensemble parce qu'il y avait vraiment un point commun entre les deux. Ça a commencé avec un texte dans Le Devoir sur un livre qui est paru là, dans les derniers jours et qui s'appelle « Sexualité au pluriel et dissidence au pluriel, queer au pluriel ». Et c'est un collectif de textes sur toutes sortes de sexualités, la diversité de toutes sortes de sexualités dans la société.
Attends, je suis en train de m'endormir.
Oui, j'ai vu ça.
C'est quoi le titre du livre?
Donc, je répète ça, Sexualité et dissidence queer. Et c'est un universitaire qui a dirigé donc un collectif d'auteurs. Mm-hmm. Et là, finalement, on discute. Donc, moi, je ne savais même pas, par exemple, qu'être séropositif, c'était une sexualité diverse. C'est-à-dire, quand on est séro... Moi, je pensais que ça voulait dire avoir attrapé le sida, là, mais il paraît que c'est une nouvelle communauté. Enfin, c'est une nouvelle pratique sexuelle, la séropositivité. J'ai appris ça dans le livre. J'ai appris aussi qu'il existait, écoute bien ça, des aromantiques. Qu'est-ce que c'est que ça, des aromantiques?
Ah, Sophie? Ben moi, je le sais, j'en ai parlé la semaine dernière dans une de mes chroniques, mais c'est pas grave, vas-y.
Ben, un aromantique, c'est quelqu'un qui... à ne pas confondre avec un asexuel. Un aromantique, c'est quelqu'un qui peut très bien avoir un goût, une libido, mais c'est quelqu'un qui ne ressent pas de sentiments, pas de romantisme. Donc,
absolument.
Par exemple, j'ai jamais le goût de te voir, Sophie. T'sais, quand tu viens me donner un câlin, ça me fait rien pantoute.
D'accord.
Si je suis ton copain, par exemple.
Essaye de pas me prendre en exemple. Prends une fille, appelons-la Pénélope, mettons.
Pénélope, même chose. Ouais, Pénélope, Pénélope, OK. On dirait que tu n'as pas pris ce nom-là au hasard.
Mais honnêtement, oui, c'est un hasard. Donc, appelons-la
Pénélope, c'est Germaine. Tout simplement Pénélope. Donc, okay. Pénélope, je suis un aromantique, mais j'ai envie peut-être d'avoir une relation sexuelle avec Pénélope, mais Pénélope, je ressens rien quand elle est là. Donc, ça existe. Ouais. Et vois-tu, ça fait partie de la diversité, donc des sexualités. Dans mon livre à moi, t'as peut-être un problème, là. Si t'es aromantique, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider.
Oui, c'est aussi que... Pourquoi en faire une catégorie? La raison pour laquelle j'en ai parlé récemment dans une de mes chroniques, c'est que la ministre du patrimoine, donc Pascale Saint-Onge, le 6 ou 8 avril, a écrit sur ses médias sociaux qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des personnes asexuelles. Mmh. Et là, il y a une association qui est les Aces and Arrows. Mmh. Aces pour asexuals, puis Arrows pour aromantics. Et eux, ils veulent qu'il y ait un safe space dans les écoles pour les gens qui sont ace ou arrow. C'est rendu là que t'as des étudiants au secondaire à qui on dit « Toi, t'es asexuel, ça veut dire tu fourres jamais. Excusez-moi, non, tu fais jamais l'amour.
Ouais. »
Et donc, mais moi, à mon époque, les gens qui faisaient pas l'amour à l'école, on appelait ça des gens qui fréquentent la bibliothèque. Mais bon, aujourd'hui, ça s'appelle des asexuels.
Ben, tu touches un bon point. Donc, il y a une espèce de manie dans notre société de titrer tout le monde,
oui,
d'attitrer en fait. Ouais, d'étiqueter à peu près tout le monde. Il n'y a jamais personne, finalement, qui a un problème. Donc, par exemple, un aromantique qui, à mon avis, moi, je le dis, ça va vous blesser les 5 aromantiques au Québec, mais vous avez un problème, là. Il faut consulter, puis il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Vous m'avez vu? Donc, parfait. Mais maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, la personne, elle s'est trouvé un titre qui s'appelle aromantique, et elle dit « C'est ma condition. Je n'ai pas de problème. C'est ma condition. Respectez-moi comme ça. Je fais partie de la diversité sexuelle. »
Et quelqu'un écrit un texte dans le collectif
tout
de Machingus.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça s'inscrit aussi dans une mode qui s'appelle, cette mode-là, c'est une mode qui a tendance à ringardiser l'hétérosexualité. Hein? Mm-hmm. Donc, les hétérosexuels, là, c'est honnêtement... Là,
une espèce en voie de disparition.
Ouais, c'est un petit peu passé date. Et ça me permet de faire un lien avec le deuxième texte que j'ai lu.
Oui.
Dans le Journal de Montréal, Madeleine Pilote-Côté qui écrit un texte. Franchement, le titre déjà en partant, c'est « Les femmes québécoises devraient faire moins d'enfants ».
Devraient arrêter d'avoir des enfants.
Donc, je rappelle quand même que le taux de natalité au Québec est de 1,4.
Donc, la population ne se renouvelle pas.
L'année dernière, il y a eu 400 naissances de plus que de décès seulement. Donc, c'est peut-être la pire idée en ce moment.
Attends. T'es sérieux?
Oui.
Il y a eu 400 naissances de plus
seulement que de décès au Québec.
Donc, on a seulement créé 400 citoyens de plus, puis on veut faire un pays.
Là, évidemment, j'inclus pas l'immigration là-dedans. Je parle des naissances versus les décès.
Oui, bien sûr.
Seulement 400 de plus. Et ça, en passant, c'est un bon total parce que l'année prochaine, ça va être à la baisse. Et ensuite.
Voilà.
Et donc là, la pire idée en ce moment, franchement, là, si on veut c'est pas mal ça. C'est pas mal de faire moins d'enfants. Mais ça, c'est pourquoi qu'on veut faire moins d'enfants? Ben, parce que c'est...
Ben, parce que les hommes sont des salauds. Alors, attends deux secondes, c'est qu'elle dit, parce qu'elle parle d'un mouvement qui est né en Corée, où les gens, donc, refusent le mariage hétérosexuel, refusent l'accouchement, refusent d'avoir des relations amoureuses, et surtout rejettent des relations sexuelles hétéro. Pourquoi, et nous dit Madeleine Pilote-Côté, on devrait faire la même chose ici? Parce que même si notre société semble moins conservatrice qu'en Corée du Sud, les inégalités entre les hommes et les femmes sont toujours présentes au Québec. Alors, parce que il y a une femme fait 78% du salaire d'un homme, faut arrêter de coucher avec des hommes. La logique me paraît imparable.
Ah, franchement, c'est très, très bon. Mais tu sais, en plus, c'est toujours ce sont des pensées qui se disent en faveur de la vie, de l'inclusion, de la joie. Mais c'est une pulsion de mort, ça.
Très vrai,
une société qui ne se reproduit plus et des jeunes dans cette société-là qui encourage des jeunes à ne plus faire d'enfants, qu'est-ce que c'est que sinon qu'une pulsion de mort totale? Et bon, moi, tu sais, j'ai pas de problème avec le féminisme, mais là, on est vraiment dans un féminisme revanchard. Donc, on est dans l'esprit de, bon, les hommes ne nous ont pas encore donné tout ce qu'on voulait, on va se venger. Mmh. On fera pas d'enfants. Mais ça, la revanche, là, ça marche vraiment jamais, en fait.
Non, mais tu peux faire, mettons, la grève du sexe. Il y a, je sais plus trop quel pays, à un moment donné, les femmes avaient décidé... C'était peut-être en Amérique latine, peut-être Cybèle peut nous retrouver ça. Mais les femmes avaient décidé de faire la grève du sexe. Mais tu sais, tu fais la grève du sexe 2 semaines, puis tu finis... De toute façon, des fois, ça, tu fais la grève du sexe 3 quarts d'heure, puis tu finis par obtenir ce que tu veux.
Oui, ça marche.
Mais ça,
aussi.
Ça va. Mais je veux dire, décider que pour le restant de tes jours, tu n'auras pas d'enfant pour punir les hommes ou pour leur donner... La monnaie de leur pièce.
La correction qu'ils attendent et qu'ils méritent depuis si longtemps. C'est pas, on s'en va pas vers une solution quand on fait ça.
Mais moi, ce que j'adore, c'est la conclusion de Madeleine Pilote-Côté. Elle dit « Je suis convaincue que ça forcerait beaucoup de réflexions nécessaires, engendrerait des changements rapides dans la bonne direction pour la condition féminine. » C'est toujours cette volonté de rééducation. Tu sais. L'homme blanc est défectueux.
Oui.
Et il faut le réparer. Mm-hmm. Et de quelle façon peut-on réparer l'homme, le déconstruire pour mieux le reconstruire? C'est assez fascinant.
Oui, et ça va fonctionner. On est dans une bonhomie. Allons-y. Ah oui. Point.
Voilà. Donc, toi, comme homme, ouais. Et en plus comme blanc, et en plus comme hétéro, enfin, je pense que t'es hétéro.
Je le confirme.
T'es peut-être bi, t'as peut-être fait des toutes sortes de trucs quand t'étais jeune. Ça me regarde pas vraiment, mais majoritairement, disons, hétéro, tu reçois ça comment? C'est comme un petit peu dégradant, se faire dire que t'es comme en trop, finalement, dans l'équation?
Oui, ben en fait, je fais toujours un petit peu la distinction aussi entre un collectif d'un livre qui va être lu par 25 personnes et une pensée dominante, mais l'ennui, c'est que ça se remarque ailleurs. Ouais. Ça se remarque ailleurs. On nous dit, par exemple, ben, il ne devrait pas y avoir de normes sexuelles. Mais d'un point de vue très biologique, s'il n'y a pas de normes sexuelles, il n'y a pas de reproduction. Donc, à ce que je sache, les aromantiques ne font pas d'enfants. En tout cas, ils en font moins que les hétérosexuels. Mm-hmm. Donc, moi, ça m'énerve, cette espèce de déni de nature. Mais écoute, je suis confiant, puis je continue d'avancer, puis fais la différence entre la bêtise et... des bons raisonnements fondés sur la raison.
Mais il faut faire attention parce que toi et moi, on dit que il faut éventuellement qu'un homme et une femme puissent avoir une relation sexuelle pour avoir des enfants, mais il y a peut-être des gens dans ce collectif-là ou d'autres gens qui pensent comme eux, qui disent que non, le sexe n'est pas binaire et que ça prend pas un homme et une femme, ça prend deux personnes non binaires peuvent s'accoupler et faire éventuellement un enfant sans qu'on aille vérifier l'appareil génital ni de l'un ni de l'autre.
C'est leur opinion.
Ben oui. Ben, voilà. C'est peut-être ben des gens qui croient aux licornes aussi, c'est possible. Mm-hmm. Merci beaucoup, Rémi Villemur.
Bye bye, Sophie.
En sociologie, la sociologie des licornes, non, ça n'existe pas encore.
Ça existe, je le confirme.
Merci, Rémi.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Jean-François Barry est toujours à l'affût d'idées qui pourraient améliorer notre quotidien. Puis là, tu veux nous parler aujourd'hui, Jean-François? Ouh, j'aime ça quand tu te fais aller le sourcil.
Mais tu faisais la même chose, donc...
La semaine de 4 jours, bonne ou mauvaise idée?
Écoute, c'est un sujet qu'on n'a pas traité encore ensemble depuis le début de l'année, puis ça faisait 2-3 fois que je mettais des articles de côté dans ma petite filière Sophie Durocher, en se disant,
je suis contente d'être une filière dans ton dossier.
J'ai une petite filière, et aujourd'hui, dans la presse, il y a un entrefilet, là. C'est tout petit, mais ça m'a donné l'idée de parler de ça, du cofondateur de Connect & Go, qui vient d'offrir la semaine de 4 jours à ses employés.
Oui.
Et lui, ce qu'il dit, c'est que ça fonctionne et c'est la meilleure façon d'avoir de la rétention parce que, bien évidemment, la personne qui s'habitue à un 4 jours, puis là, ça fait, bon, ben, je suis tanné, je m'en vais travailler ailleurs. Difficile de trouver présentement quelqu'un qui offre une semaine de 4 jours. Donc, ça fait en sorte que les gens demeurent beaucoup et plus de productivité, on pourra y revenir, plus de productivité, les employés sont plus heureux aussi. Le seul bémol, c'est que ça permet pas beaucoup de... Les stagiaires, les jeunes en formation, puis tout ça. Évidemment, comme on vise la productivité rapide, que tout le monde soit efficace, t'engages pas celui qui vient de sortir de l'école à qui tu dois tout montrer. Fait que c'est peut-être le bémol à ça. Mais moi, j'ai été surpris de dire ça parce que j'avais l'impression que depuis la pandémie, avec le télétravail, on en parlait beaucoup de la semaine de 4 jours avant, que depuis la pandémie, que tout le monde faisait un peu du 4 jours semaine. Parce que tout le monde arrange un peu son horaire. « Oh, ben, vendredi, j'aurai quelque chose. Ah ben, je vais travailler du chalet. »
Oui, c'est ça.
« Oh, je vais travailler ce soir. »
Oui, mais c'est pas vraiment faire du 4 jours. Ça veut juste dire que la semaine est déstructurée. C'est-à-dire que c'est pas du lundi au vendredi entre 9h et 5h avec une heure de pause pour le lunch. C'est juste que tu peux travailler des fois le soir ou compenser, mais le résultat, c'est que tu fais ton, je sais pas moi, 40 heures ou 42 heures par semaine.
C'est en plein ça. Mais, est-ce que tout le monde fait, depuis le télétravail, est-ce que tout le monde fait son 35-40 heures? Tu sais, quand tu dis, je vais reprendre mon après-midi de travail, mettons, ce soir, quand les enfants seront couchés, est-ce que tu vas vraiment faire 3h30 ou ça se peut que tu fasses 2h15? En tout cas, bon. Mais c'est pour ça que j'avais l'impression que tout le monde avait grignoté. On va dire ça comme ça.
Bien
des
dit.
Heures à gauche et à droite. Mais visiblement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais du bureau, oui. Mais tous les gens qui travaillent physiquement, tu travailles dans un abattoir, tu travailles pour la ville, tu fais pas du télétravail. Donc, tu es là, toi, 5 jours, semaine.
J'aime ça quand tu dis travailler pour la ville, parce que ça dépend quelle ville.
Non, mais je voulais dire...
Non, mais il y a des gens qui travaillent pour la ville, puis... Oui. Excuse-moi, là, ils dorment sur
mon meilleur
leur
exemple,
peine, là.
Dire,
ouais, c'est ça.
Présentement,
une autre administration.
On en voit beaucoup dans les parcs présentement en train de faire le ménage puis de mettre les villes en état de marche pour l'été. Je veux dire à l'extérieur. Tu sais, t'es obligé de travailler. Donc, la semaine de 4 jours serait un gros avantage. Écoute, tous les statistiques le démontrent et ce qui m'a jeté à terre, c'est que le gros avantage, c'est que les gens arrêtent de s'absenter pour de la maladie.
Oui.
Donc, les gens sont plus heureux, plus en forme. Moins de rhume, moins de fatigue, moins de burn-out, moins de tous ces problèmes-là psychologiques. Et ce que ça fait en sorte, c'est que les gens ont plus de rétention au travail. Donc, vont vraiment faire leurs 4 jours semaine, le nombre de semaines par année. Il peut arriver des petites anicroches. Et c'est plus facile pour les employeurs de dire, bon, Sophie ne rentre pas lundi, JF ne rentre pas mardi, Cybelle ne rentre pas mercredi.
Voilà.
Et de planifier des horaires comme ça, que si, du jour au lendemain, on est supposé avoir une réunion, toi et moi, ensemble. Puis là, mardi, finalement, je suis malade. Ou mardi, je suis malade, entre guillemets, parce que j'ai quelque chose d'autre. Puis là, je prends ma journée de maladie. Donc, les gens sont plus consciencieux d'aller faire leurs 4 jours semaine. Mais ça me fait quand même dire à quel point les gens sont malheureux au travail.
Oui, mais c'est parce que c'est que ça n'a aucun sens, Jean-François. Je prends l'exemple, tu sais, nous, on est pigistes, donc on a des horaires atypiques. Tu sais, moi, je travaille tous les dimanches parce que j'écris une chronique pour le journal du lendemain puis que je prépare l'émission ici à Cube. Mais je veux dire, j'ai pas un horaire standard. OK. Donc, et toi, sûrement aussi parce que t'as plein de contrats et toutes sortes de choses. Donc, mais moi, tu me mets dans une semaine où toutes les journées sont pareilles, où je rentre à la même heure, où je finis de travailler à la même heure, où, et que la tâche est semblable du lundi au vendredi, et qu'en plus, tu me donnes 2 semaines de vacances par année, je deviens complètement cinglé. Enfin, je veux dire encore plus cinglé que je le suis là.
C'est d'un autre style de cinglé.
Un autre style de cinglé.
Mais tu mets le doigt sur le bobo. Ça veut dire que la majorité des gens sont malheureux au travail.
Donc, il faut repenser notre rapport au travail.
À force de le faire 5 sur 7, ça devient
trop.
Ça devient aliénant. Ça fait en sorte, tu sais, puis là, je me rappelais quand on avait des plus jeunes enfants, tu sais, là, on a un peu plus de temps, les enfants sont plus grands, mais tu sais, quand tu pars dans la vie, là, puis que là, tu dis, on va faire une chambre au sous-sol. Puis que là, la chambre au sous-sol, il faut que tu l'ajoutes sur ton 5 jours de travail. Puis là, tu vas faire ça le samedi, puis là, les pépins vont arriver, finalement, ça va déborder le dimanche, puis tu vas retourner lundi au travail, puis tu n'auras pas eu une seule seconde dans ta fin de semaine. Mais cette petite journée d'extra-là permet, selon les études, de faire des menus travaux. Au lieu d'engager, ou au lieu de le faire à la course, puis de pogner les nerfs, puis tout ça, de faire ce genre de choses-là, de se tenir en meilleure forme. Parce que une journée de travail, un jeudi soir, tu te dis, à soir, là, je vais aller jogger, mais que j'arrive. Ouais, entre toi et moi, Sophie, quand tu as fini ta journée, là. Hein, t'étais plein de bonne volonté le matin.
Ouais.
Mais les chances que tu y ailles vraiment t'entraîner sont quand même faibles. Alors que si t'as pas travaillé, ça se peut que tu te fasses une vraie journée d'activité physique. Meilleur sommeil, meilleure nuit, parce que souvent quand t'es fatigué à cause du travail, t'es stressé, tu dors mal. Donc là, si t'enlèves cette journée-là, j'en revenais pas des bienfaits. Puis ça doit être justement parce que toi et moi, moi j'ai toujours eu un horaire atypique. Avec un vendredi off, avec un mardi après-midi où je peux aller à la banque, j'ai des choses à régler
et
parce qu'on travaille pas.
Bon, là, c'est la partie, selon moi, qui est la plus importante, Jean-François, c'est que je n'ai jamais compris quelqu'un qui travaille de 9h à 5h du lundi au vendredi. Il fait comment, ne serait-ce que pour ouvrir un compte à la banque, mettons, ou des trucs, mais tiens, aller au bureau des passeports, faire un nouveau passeport, où il y a des trucs, c'est vraiment où ça prend des blocs d'heures. Tu sais, mettons, t'appelles le 811, tu sais, que quand t'appelles le 811, ils essayent à trois reprises de t'appeler. Mais si toi, tu travailles pendant toute la journée, tu peux pas nécessairement répondre au téléphone. Je veux dire, il y a plein de trucs administratifs
à gérer. Sophie, je vais te dire, les assurances.
Mais
cette
oui.
semaine, parce que là, les assurances de maison, les assurances de l'auto, t'es dû. Il y a une compagnie qui m'a appelé pour me faire une soumission. Là, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone à un, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Mais si j'avais eu ma job de 9 à 5, j'aurais fait ça quand? Fait que cette petite journée d'extra-là permet de faire ça. Et là, tu donnais l'exemple des passeports. Si j'ai un passeport, allez me faire faire. Mais que j'ai pas envie de perdre ma journée de travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer malade.
Et voilà. Tu vas casser toute la dynamique à l'intérieur de trucs. En plus bon, si t'es à salaire, peut-être que t'as droit à des congés. Mais tu sais, en ce moment, nous, on est en train de faire toute la paperasse après le décès de ma mère. Tu sais, il faut aller... en tout cas, moi, je te raconterai pas tous les détails.
Non, mais c'est presque une job en soi.
C'est presque une job à temps plein.
Quelqu'un dans sa famille, puis en tout cas, il était exécuteur testamentaire.
Voilà.
C'est du travail,
ça. C'est énormément de travail. Mais tu fais comment si tu travailles, en effet, de 9h à 5h du lundi au vendredi, tu prends ton heure de lunch, mais t'as pas le temps. Tu pars de ton bureau, faut que t'ailles au salon funéraire, faut que t'ailles au cimetière, faut que t'ailles ici, faut que t'ailles là. C'est impossible. Donc, tu te retrouves évidemment à faire, comme tu disais, à prendre des journées de congé. Donc, moi, je dis vive la journée de 4 heures. Je vous annonce d'ailleurs que demain, c'est pas moi qui anime.
Mais non,
c'est pas vrai, c'est une blague.
Quoi?
La journée que j'ai dit la semaine.
T'as dit la journée
fatiguée.
De 4 heures.
Je suis fatiguée, Jean-François.
Mais ça, c'est peut-être le danger. C'est qu'on s'habitue à des semaines de 4 jours et des journées de 4 heures. Là, parce que demain, quand on va faire, là, ça arrive plus 4 jours semaine, on va travailler 3 jours semaine. Mais bon,
alors, moi, je dis vive la semaine de 4 jours.
Fait que c'est toi ou moi qui en parle au patron. C'est ça, je voulais finir là-dessus. Il me semble que t'as plus de poids, t'es au bureau tous les jours. Je te laisserai aller gérer ça.
Ben moi, je te dis, je ne les considère pas comme des patrons, mais comme des clients. Donc, on va voir qui en parle en premier aux clients.
Ah. Mmh. Ben, d'après moi, c'est Mario qui a le plus de poids. Je vais envoyer Mario.
Ah oui, c'est ça, envoie Mario.
Mario puis Benoît Dutrisac.
Comme représentant syndical. Excellent. Merci. Avec comme garde du corps, Benoît Dutrisac, c'est très bon. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Merci.
Salut.
Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie, Eddie.
Sophie Durocher.
Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Alors, vous connaissez bien sûr tout le monde les paroles de cette chanson célèbre de Patrick Normand, mais saviez-vous qu'elle était très populaire en 1994 au Rwanda, en plein milieu du génocide. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans un documentaire qui va être diffusé à Historia au mois de mai. Mais nous, on en parle tout de suite avec Patrick Normand. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie, ça me fait plaisir.
Ben moi, ça fait toujours plaisir de te parler. Patrick, ton sourire est toujours si inspirant. Alors, comment est venue l'idée de faire ce documentaire où on te suit, où tu vas au Rwanda pour aller à la rencontre des Rwandais et de ta chanson?
C'est un hasard. Il y a plusieurs choses qui se sont alignées pour que ça se passe. Et si je recule dans le temps, le premier qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Michel Mambara.
Ah oui,
qui,
l'humoriste,
quand
oui.
Quand je l'ai rencontré, il dit, tu sais que tu es une grande vedette dans mon pays. Les gens chantent tes chansons dans les autobus. Puis ça, c'était une bonne vingtaine d'années de ça.
Ouais.
Alors, j'ai pris ça avec un grain de sel, ça me fait plaisir. Au Rwanda, je m'attends pas à vendre 150 millions de disques là, tu comprends? Mais c'est quand même le fun de savoir que chanson voyage comme ça. Puis après, j'ai reçu des témoignages de gens qui m'écrivaient puis qui me disaient qu'ils étaient à Kigali pour une mission humanitaire, puis qui avaient entendu mes chansons dans les boutiques, dans les restaurants.
C'est intriguant?
Oui, c'est intriguant. Puis à un moment donné, j'étais entre deux tournages dans un resto en plein milieu de l'après-midi. Puis une belle dame qui est entrée, une belle femme, une belle africaine, et qui m'a salué en entrant. Elle s'est assise à l'opposé de moi.
Mm-hmm.
Et puis la serveuse est venue me voir, puis elle m'a dit, la dame aimerait vous venir vous parler.
D'accord.
Alors, dans le milieu de l'après-midi, il n'y a personne, il n'y a que nous deux. Ainsi la serveuse. Alors, elle se dirige vers moi, puis plus elle s'avance vers moi, plus je réalise qu'elle est dans une émotion que j'ai même pas, je lui ai invité pour s'asseoir. Elle était très, très émotive.
Oui.
Puis elle m'a dit, je croyais que vous étiez français, je viens d'apprendre que vous êtes québécois. Et quand ma famille se faisait tuer durant le génocide, elle m'a conté ça vite fait, là. Elle dit, j'étais caché et ma famille se faisait tuer. Puis moi, je chantais « Quand on est en amour » en boucle dans ma tête. Mm. Quand je vais sortir après du resto, elle dit, dans la rue, quand je vais sortir dans la rue, je vais pousser un grand cri.
Ah! C'est fou, cette histoire-là. Et, c'est, wow. et on sait, évidemment, que le génocide au Rwanda, c'était absolument épouvantable. Hutus, les Tutsis, il y a eu, bon, certaines personnes disent 800 000, d'autres disent 1 million de morts. Vraiment une guerre civile. Ouais. On sait que les parents, par exemple, la famille de Corneille a été assassinée. Ouais. Bon, voilà. Puis il y a eu une grande communauté rwandaise qui est venue s'installer au Québec. Donc, ça, c'est le point de départ. Patrick, on comprend fort bien que ce soit un point de départ. Mais là, à un moment donné, donc, tu décides où des gens t'invitent.
Il fallait que j'aille.
Ben oui, il faut que tu ailles vérifier ça. Puis qu'on,
je vais le regretter.
Voilà, alors, donc tu prends l'avion, tu arrives au Rwanda.
Mais un hasard, c'est pas arrivé comme ça, c'est un hasard, une circonstance. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui, il y a Charles Domingue qui a tourné, un documentariste, il a fait 60 pays, je crois, dans sa carrière, puis il a fait un documentaire sur le Rwanda qui s'intitule « Paradis retrouvé ».
Oui.
Et ce documentaire se terminait chez moi avec Marie-Josée Djikali. Et de fil en aiguille, c'est devenu comme la suite. J'ai dit, il faut que j'aille.
Voilà. Donc, c'est lui qui réalise. C'est ça. Puis c'est Charles Domingue.
C'est comme ça qu'on s'est ramassé au Rwanda puis qu'on a été témoin d'un pays qui s'est relevé en peine une trentaine d'années.
Voilà, c'est ça, parce qu'en plus,
c'est extraordinaire.
L'actualité fait en sorte que, donc, ces jours-ci, on souligne les 30 ans du génocide au Rwanda. Donc, première impression, toi, quand tu es arrivé au Rwanda et que tu te rends compte, tu vas rentrer dans un magasin de disques, ils ont tes disques, tu vas dans des lieux publics, les gens chantent ta chanson. Donc, ta première impression quand tu arrives au Rwanda, c'est quoi?
C'est, comment je dirais ça en français? Amazement, j'en reviens pas.
Ouais. Émerveillement, oui.
Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas un resto où on allait manger, où on me reconnaissait, puis qu'il se mettait, il allait sur Spotify, puis il mettait mes chansons. Je me sentais au Rwanda, c'est un pays magnifique, propre, c'est beau, puis en même temps, j'entends ma musique. C'est comme
le paradis. Écoute,
spécial.
Ouais, Patrick, on va écouter un petit extrait de ce documentaire donc qui va être diffusé à Historia le 25 mai.
Et voilà, je me lance dans ce grand voyage sans trop savoir à quoi m'attendre. J'ai hâte de comprendre ce qu'est devenu le Rwanda. 30 ans après le terrible génocide contre les Tutsis, est-ce que ma chanson est toujours présente?
Ah, je pense qu'on a la réponse. Alors, ça s'intitule « Patrick Normand au Rwanda, le devoir de mémoire ». Ça a été présenté, donc, le week-end dernier au cinéma Guzzo, marché central. Mais là, ça va être présenté, donc, le 25 mai sur Historia. Ouais. On dira pas comment ça se termine, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, je pense que personne va avoir les yeux secs en regardant ce documentaire-là. Patrick,
très émouvant. Ouais.
Très émouvant. En terminant, vu que moi, je chante comme une casserole, peux-tu nous faire juste le refrain?
Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour.
Merci.
Juste pour
beaucoup.
Toi.
Ah, mais c'est des paroles. C'est pas pour rien que ça a aidé les gens à traverser des épreuves plus horribles les unes que les autres.
Inespéré d'avoir contribué à relever, mais à travers une chanson, aider les gens à se relever et à passer outre la violence et la vengeance et qui sont rebâties C'est extraordinaire.
Voilà. Le Rwanda est vraiment rendu un pays complètement différent aujourd'hui, vraiment dans la réconciliation et la restructuration. Merci beaucoup, Patrick Normand.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci, Patrick.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Le roman Coucoum de Michel Jean est sorti en 2019, mais depuis sa sortie, il a conquis tous les cœurs. Et là, on a appris tout récemment qu'il va même être adapté sur scène au Théâtre du Nouveau Monde. Ce sera présenté en novembre de cette année. J'avais envie d'en parler avec l'auteur de Coucoum. Michel Jean, bonjour.
Salut Sophie, Coucoum.
Kwekwe, écoute, félicitations. Écoute, moi, quand je t'ai interviewé l'année dernière, je t'ai dit, hey, 2023, c'est vraiment ton année. Quand je t'ai interviewé en 2022, je t'ai dit, 2022, c'est vraiment ton année. Là, je vais t'interviewer en 2024, puis je vais dire, c'est vraiment ton année.
Écoute, je me le souhaite. Je ne peux pas me souhaiter autre chose.
Alors, comment t'as pris ça? D'abord, comment t'as appris ça, que ça allait être adapté au théâtre?
Ben, ça fait un bout de temps que moi, je le sais, parce que, bon, ils nous ont contacté au départ, mon agent... Patrick Kleimgruber puis moi, parce que ils étaient intéressés, puis c'est Lorraine Pintal là, qui a pris contact, puis je les ai rencontrés d'abord, tu sais, pour voir ce qu'ils voulaient et tout ça. Puis le contact était super bon, Madame Pintal était vraiment, je veux pas dire juste gentille puis tout ça, mais je voyais qu'il y avait une très grande compétence. Là, je veux dire, j'étais là, je disais OK, clairement. Puis deux, c'est pas un désir de bien faire avec Coucoum. Puis ça m'a comblé. Donc, après ça, ben, ils ont cherché des gens pour faire l'adaptation de ça. Mais vraiment, ça a d'abord été cette rencontre-là. On s'est entendu. Puis moi, je leur ai fait confiance tout de suite. Puis j'étais flatté parce que, je veux dire, dans le monde du théâtre, le TNM, c'est
réputé.
C'est la référence.
Absolument. Alors, c'est très particulier quand même parce que quand on lit Coucoum, il y a beaucoup de scènes dans la nature. En fait, je dirais 99,9% du livre se déroule dans la nature. Il y a des scènes en plein hiver, remonter le cours d'un lac, etc. Est-ce que tu as déjà une idée en tête de la façon dont tes mots écrits noir sur blanc vont prendre vie sur scène?
Ben, moi, je voulais pas m'occuper de ça parce que j'aurais pas eu la compétence pour faire une adaptation au théâtre. Déjà, le cinéma, ça m'apparaît moins difficile pour moi parce que je fais de la TV, même si c'est pas de la fiction depuis longtemps. Ouais. Puis je peux comprendre le concept de travailler avec des images.
Je comprends.
Mais le théâtre, c'est un médium que je maîtrisais moins, là, pour être franc. Et je sais que, par exemple, ça va se faire beaucoup à partir de Malek et de d'Almanda. J'ai pas encore assisté, puis on va le faire bientôt à la lecture, première lecture qu'ils vont faire avec les comédiens. Je sais aussi que dans une première fois, il y avait une première version qui a été faite où je pouvais pas y aller parce que bon, j'étais au travail, puis il y avait des trucs que je pouvais pas remettre. Mais qu'on était moyennement contents de tout ça, qu'on est reparti à zéro sur d'autres bases avec d'autres personnes. Et là, c'est Laure Morali et Josephine Bacon qui ont pris cette responsabilité, et j'ai aucun doute que ça va être parfait, excellent. Je sais que Josephine, que je considère comme une amie, a beaucoup aimé Coucoum.
Et nous, elle aussi,
exactement, qui cette histoire-là, elle la connaît, elle l'a vécue, puis en plus, elle a connu des gens dans ma famille, donc les oncles de ma mère et tout ça. Évidemment, on ne peut pas raconter l'histoire dans le bois. Moi, mon seul conseil à eux, c'était gardons ça le plus simple possible. Parce que, tu sais, il y a déjà une mise en lecture faite par Dominique Pétain qui fait une tournée depuis un an. Puis, monsieur, moi, je l'avais dit la semaine passée quand j'étais là, il y avait 130 personnes, 300 personnes plutôt à Sorel dans une salle pleine pour écouter ça. Donc, tu sais, tu n'es pas obligé de faire tant de ce parage. Je pense que l'histoire en tant que telle
se tient elle-même. Elle se tient absolument. Alors, Coucoum t'a fait quand même voyager, ça, on le sait. On le sait que c'était le Festival du livre de Paris, le Québec était à l'honneur. tu étais à Paris, tu as rencontré le président français Emmanuel Macron et tu as dit à différents médias qu'il semblait réellement intéressé par ton livre. C'est quand même pas rien. Quand tu as commencé à écrire ce livre-là, te doutais-tu qu'un jour, le président de la République française te parlerait de Koukoum?
Non, puis je pensais pas que ça intéresserait tant de gens que ça, pour être bien franc.
Ouais.
Je pensais pas que ça intéresserait beaucoup les gens, pour être franc, à ce moment-là. Et j'avais sous-estimé mon Allemanda qui veillait, mais c'est arrivé de façon... avec M. Macron, la veille, le directeur du Salon du Livre de Paris m'a dit, Michel, dans les trois auteurs qu'on a retenus qui veut pour rencontrer le président. Puis quand je suis arrivé le lendemain matin, ça devait être vers 11h, mais il avait déjà bloqué la rue pour laisser passer le convoi. Donc, j'ai entendu, puis quand il est passé, moi, je suis rentré. Mais là, lui, il arrivait derrière, moi, il a fallu que je traverse. Quand je suis arrivé, donc, il était déjà peut-être à, je sais pas, 10 mètres de moi, en train de scrummer les gens et tout. Et quand il a commencé à avancer, le directeur du Salon du Livre, il m'a vu, puis il a dit, Michel, viens. Puis là, les gardiens de sécurité se demandaient qui j'étais. Là. Viens, j'ai dit, excusez-moi, le président m'appelle.
Je suis allé,
puis j'étais à côté. Ouais, c'est ça, puis ils m'ont amené, puis j'étais... Je suis arrivé devant lui, puis le président m'a dit, « Monsieur le président, je vous présente un grand journaliste et écrivain Inou du Québec, Michel Jean. » On a serré la main. Puis c'est lui qui me posait des questions, Monsieur Macron, puis qui me relançait sur de quoi parle exactement votre roman. Puis il me relançait comme sur des sujets. Ça a été, puis il écoutait, puis avant moi, je l'ai vu quand même serrer les mains. C'était protocolaire. Bonjour, enchanté. Oui, merci. Le président, le ministre présente le président de l'Association des chambres d'affaires du Québec. Oui, bonjour, enchanté. Merci, on est content d'être là. Moi, il y a vraiment eu une discussion.
Ça, c'est génial. Et, je suis très fier de toi, Michel.
Ça vraiment,
Oui, tout à fait. Écoute, Michel, il s'est passé aussi quelque chose dans cette présence québécoise en France. L'auteur Kevin Lambert était à l'émission La Grande Librairie et à la toute fin, il a livré un texte en regardant la caméra. On va en écouter un petit extrait parce que ça parle des Inuits.
Je vous parle d'une histoire de dépossession, de lignes emmêlées, de douleurs et de larmes. Venir de là vient avec de très vieux et de très douloureux savoirs. Les crimes du passé ne sont jamais recouverts par les constructions neuves. Fonder un pays dans le crime et le sang fonde un pays dans le sang et le crime.
Alors, il disait à un moment aussi dans son texte qu'il vivait donc dans un territoire occupé et il fait référence au peuple Inou qui était là avant l'arrivée des Blancs. Toi, tu as pris la défense de Kevin Lambert. Tu penses que c'est en effet que les Blancs, c'est synonyme de crime et de sang et qu'on est des colonisateurs et que le Québec, le Saguenay, c'est un territoire occupé. Tu penses réellement tout ça, Michel?
Ah, écoute, Kevin a choisi des mots qui lui appartiennent. C'est pas tellement le choix des mots de Kevin.
Ouais.
Mais même s'il y en a beaucoup avec je suis d'accord quand tu parles de dépossession, quand tu parles de gens qui ont été dépossédés, c'est quand même de colonisation, Sophie, c'est quand même ça qui s'est passé. On appelle ça comme ça, la colonisation de l'Amérique du Nord. On disait des colons à l'époque, puis ça posait pas de problème. Ouais.
Mais le crime et le sang, moi, c'est plus ça qui me chicote, moi, le crime et le sang. Ouais.
Mais le crime et le sang, je peux être d'accord avec quoi qu'on peut discuter de l'utilisation des termes, mais sur le fond de la question, c'est quand même comme ça que ça s'est passé, la colonisation, le fait que les gens ont été tassés. Tu sais, dans Koukoum, je veux dire, ma famille, quand ils arrivent à un moment donné pour remonter la rivière Péribonka, qu'est-ce qui s'est passé? La rivière était bloquée par la drave, la forêt avait été donnée sans demander l'avis des gens qui y vivaient à des compagnies comme Price, dans notre cas, pour l'exploiter. Ça a permis de créer des villages où les gens sont venus s'installer. Et tout ça, les Autochtones n'ont jamais été ni indemnisés, ni compensés, ni rien. Ils sont juste restés, on a donné leur terre. Et dans Koukoum, on voit aussi plus tard, ça c'est arrivé pour vrai, les gens de la famille qui sont retournés là où ils avaient vécu toute leur vie auparavant, puis ils reconnaissaient pas les lieux, il y avait plus d'arbres, puis ils se sont fait dire par le garde-chasse, qu'ils n'avaient pas d'affaires là, etc. Mmh. Donc, c'est le choix des mots de Kevin, je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde d'accord avec ça. Moi, je ne me prononçais pas tellement sur ça, mais sur le fond de la
question. Sur l'esprit de la chose, je comprends.
C'est ça, exactement ça. Je trouvais ça, je trouvais que ça prenait quand même du courage pour le dire.
Absolument. Puis, écoute, il aurait pu prendre son temps d'antenne pour parler de lui-même, son petit nombril, puis il a choisi de parler plutôt du peuple Inou. Donc, ce n'est pas inintéressant non plus, Michel Jean. Bon, ben écoute, je suis contente. Félicitations. Moi, je suis super fière de toi. J'espère que tu l'es aussi. Merci beaucoup, Michel Jean.
C'est fine, Sophie. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Là. Salut.
Merci.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Bon, Nick Payne, je vais faire mon mea culpa. J'ai pris 8 fois trop de temps avec... j'ai débordé dans tout le reste de l'émission, donc il te reste 4 minutes pour faire ta chronique. T'inquiète pas, on va pas charcuter ton salaire, ça va être le même pour le même prix.
Oh! Donc,
faisons ça je très rapidement. Tu pensais juste à ça, hein?
Ben écoute, j'ai une hypothèque à payer, moi, là, ben oui.
Ben oui, alors faisons ça très rapidement. Qu'est-ce que le CAS Review? Très rapidement.
Oui, le rapport CAS, la pédiatre Hilary CAS a été mandatée par le gouvernement britannique et le ministère de la Santé là-bas pour faire ce qu'on appelle un examen systématique des preuves ou de la preuve, si tu veux. C'est ce qu'on fait en termes cliniques, en termes médicaux, lorsqu'on veut vérifier la validité d'un traitement, ses résultats, son efficacité,
d'accord,
ses dangers potentiels aussi. Et bien sûr, on voulait qu'elle pose un regard sur les traitements liés à la question de l'identité de genre, hein, et
d'accord,
plus spécifiquement la fameuse approche trans-affirmative là qui découle du ce qu'on appelle le protocole hollandais, hein. C'est là que tout ça a commencé, là, cette volonté de prendre en amont les jeunes en dysphorie de genre pour les aider à moins souffrir plus tard peut-être. Sauf qu'à l'époque,
donc avant la puberté. Avant la puberté ou bloquer la puberté. Alors, quelles sont les conclusions du rapport CAS?
Oui. Ben, j'allais dire que les Hollandais, eux, à l'origine, faisaient très attention aux comorbidités, hein, et aux autres problèmes psychopathologiques. Et là, on a un peu échappé ça en chemin et on a un peu perdu le contrôle. Et c'est ce que constate Madame CAS. Elle dit, par exemple, elle fait des constats d'abord. Elle dit que il est largement admis que cette condition, hein, et le déclenchement rapide, notamment chez les jeunes femmes, la déclaration, je devrais dire, tardive et soudaine de la dysphorie de genre là, dans l'adolescence, résulte d'une interaction complexe entre des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Elle reconnaît ici, d'une certaine façon, le
phénomène... Une certaine pression sociale, voilà.
La contagion sociale, exactement. Elle dit aussi qu'il existe des points de vue contradictoires sur l'approche clinique, ce qui fait que plusieurs cliniciens ont peur de traiter les jeunes qui se posent des questions sur le genre. Ce qu'il faut entendre ici, c'est bien sûr qu'ils ont peur de se faire traiter de transphobes et de ne pas, hein, évidemment, marcher dans le rang serré de ceux qui... probablement les militants parfois les plus durs ou les plus fanatiques dans ce domaine-là. Elle dit également que les raisons de la suppression précoce de la puberté par des bloqueurs de puberté restent très floues et que peu de preuves concernant l'effet sur la dysphorie de genre et sur la santé mentale ou psychosociale des jeunes existent à l'heure actuelle. Elle parle aussi d'études de mauvaise qualité sur lesquelles on ne peut pas se fier à l'heure actuelle pour tirer des conclusions dans ce domaine-là. Et donc, ces recommandations, déjà, il y en a une qui a été suivie par le gouvernement britannique, là, c'est d'interdire.
Oui.
Elle n'allait même pas jusque-là elle-même, mais là, désormais, l'administration des hormones croisées pour les moins de 18 ans n'est plus possible là-bas, sauf dans des essais cliniques très, très pointus, là, des études, si tu veux. Et puis, elle recommande également, là, pour le synthétiser, ce qu'elle recommande au fond, là, c'est que ce domaine-là de la médecine, donc la question de tout ce qui touche la question du genre, soit fonctionne comme les autres domaines finalement. C'est-à-dire, elle dit
plus de rigueur.
Une approche différente des soins de santé qui serait la même que ceux des autres services du ministère ou du système de santé.
Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut arrêter que ce soit le free-for-all, puis j'ai le droit de le dire en anglais vu qu'elle est britannique, et qu'on soit plus encadré et que surtout qu'on laisse de côté une idéologie au profit d'une observation objective des faits. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ce que se refuse à faire un certain nombre de militants, parce que dès qu'on dit qu'il faut que ce soit encadré puis qu'on pose des questions, on se fait traiter de transphobe. Ce qui est très intéressant, c'est que ce CAS review, ce rapport CAS, a absolument pas été discuté ici au Canada. Donc, moi, t'es un des premiers qui en parle. Donc, on va continuer de poser des questions de façon tout à fait objective, on n'est ni pour ni contre, on pose des questions et je trouve ça tout à fait légitime. Merci beaucoup, Nick Payne.
Au plaisir, à bientôt.
Merci. Ben, merci à tout le monde. Merci à Marianne Bessette et Maxime Sawyer à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci beaucoup à vous et à demain.